Vous avez sûrement remarqué que ces temps-ci, on parle beaucoup de la place de la religion dans la société. Si vous avez suivi l'actualité, il y a 3 semaines, une petite polémique a éclaté entre le Premier ministre Manuel Valls et le député Éric Ciotti. Le premier, donc Manuel Valls, ayant donné l'impression, dans une déclaration, d'ouvrir la porte au financement public des mosquées. Et le deuxième, Éric Ciotti, étant totalement opposé à cette infraction flagrante au principe de la laïcité, mais qui, quant à lui, comme la loi lui autorise, utilise de l'argent public pour subventionner la restauration d'édifices religieux chrétiens. Puis une autre polémique a éclaté récemment autour de la décision de plusieurs maires d'interdire sur les plages de leur commune le port du maillot de bain qu'on appelle le burkini, qui couvre l'intégralité du corps et des cheveux, sous prétexte que cette tenue n'est pas, je cite, correcte et ne respecte pas les bonnes mœurs et la laïcité, comme si les strings et les seins nus, ça c'était une tenue correcte et parfaitement conforme aux bonnes mœurs. Bref, de plus en plus, on entend parler de ce type de polémique à caractère, semble-t-il, religieux, et de plus en plus, on entend les gens dire qu'il y en a marre de la religion. Il y en a marre de la religion qui s'affiche dans l'espace public, qui s'ingère dans les lois, qui menace la cohésion de la société. La religion qui incite à l'obscurantisme et qui conduit à toutes sortes de violences et d'injustices. Et si vous pensez que c'est que l'islam qui est visé, détrompez-vous. Ce sont toutes les religions, au sens traditionnel du terme en tout cas, qui sont visées, au premier plan desquelles se trouve le christianisme, accusé de bien des maux dans notre histoire et dans notre société, que ce soit, vous les avez sûrement entendus, ces accusations concernant les croisades, concernant l'obscurantisme scientifique, l'hégémonisme politique, l'opposition à l'égalité des droits, etc., etc. Alors la question que je vous pose, c'est la suivante. Qu'est-ce que vous en pensez? Et comment cela se traduit-il dans votre rapport avec la religion et avec le christianisme en particulier? Peut-être que vous vous dites chrétien aujourd'hui, et à cause de cette mauvaise presse dont le christianisme fait l'objet, vous êtes un chrétien timide et gêné, et vous êtes tenté de vivre votre foi de manière confidentielle, tout simplement pour ne pas déranger. À l'inverse, vous n'êtes peut-être pas chrétien. Mais si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que le christianisme vous intéresse au moins un petit peu, en tout cas je l'espère. Et peut-être qu'il y en a qui écoutent sur Internet, qui ne sont pas chrétiens, mais qui s'intéressent au moins un petit peu au christianisme. Et pour l'instant, c'est peut-être votre cas, vous préférez garder vos distances avec cette religion chrétienne, ce christianisme qui, si l'on en croit certains discours politico-médiatiques, est plutôt une religion néfaste, d'ailleurs comme les autres religions. D'accord. Mais qu'en pense Jésus? Qu'en pense Jésus? C'est précisément la question à laquelle répond le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier. Vous allez voir que Jésus, dans ce passage, va répondre à 3 groupes de personnes qui lui posent des questions, mais ce n'est pas des questions sincères, c'est des questions qui sont posées dans le but d'éprouver Jésus. Ce sont donc, en fait, derrière ces questions, des accusations à l'encontre de la personne de Jésus, de son message et de son œuvre. Et Jésus, en répondant à ces 3 groupes de personnes, va réduire au silence ses détracteurs. Et si l'auteur nous rapporte ces différents échanges ici, c'est pour nous faire comprendre une idée simple, et c'est tout le message de cette prédication. Le christianisme authentique est irréprochable. Le christianisme authentique est irréprochable. Alors, c'est peut-être un peu provocateur comme formule, mais c'est, je le crois, la leçon de ce texte, et j'espère vous en convaincre. Alors, on va lire Matthieu, chapitre 22, les versets 15 à 46. Matthieu chapitre 22, les versets 15 à 46, nous lisons la parole de Dieu. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de prendre Jésus au piège de ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens. Maître, lui dirent-ils, nous savons que tu es véridique et que tu enseignes la voie de Dieu en toute vérité, sans redouter personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dis-nous donc ce que tu en penses. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Mais Jésus, qui connaissait leur malice, répondit, pourquoi me mettez-vous à l'épreuve, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paie le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Il leur demanda, de qui sont cette effigie et cette inscription? De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit, rendez donc à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Étonnés de ce qu'ils entendaient, ils le quittèrent et s'en allèrent. Le même jour, les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a pas de résurrection, s'approchèrent de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, Moïse a dit, si quelqu'un meurt sans enfant, son frère épousera la veuve et suscitera une descendance à son frère. Or, il y avait parmi nous 7 frères. Le premier se maria et mourut, et comme il n'avait pas d'enfant, il laissa sa femme à son frère. Il en fut de même du 2e, puis du 3e, jusqu'au 7e. Après eux tous, la femme mourut. À la résurrection, duquel des 7 frères sera-t-elle donc la femme? Car tous l'ont eue. Et Jésus leur répondit, vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Les foules qui écoutaient furent frappées de l'enseignement de Jésus. Les pharisiens apprirent qu'il avait réduit au silence les sadducéens. Ils se rassemblèrent et l'un d'eux, docteur de la loi, lui posa cette question pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Comme les pharisiens étaient assemblés, Jésus leur posa cette question. « Que pensez-vous du Christ? De qui est-il le Fils ?» Ils lui répondirent, « De David. » Et Jésus leur dit, « Comment donc David, animé par l'Esprit, l'appelle-t-il Seigneur lorsqu'il dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je mette tes ennemis sous tes pieds. » Si donc David l'appelle Seigneur, comment est-il son fils? Nul ne put lui répondre un mot. Et depuis ce jour, personne n'osa plus lui poser de questions. Je vous invite à la prière. C'était la lecture de la parole de Dieu. Prions. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole qui a tant à nous apprendre et nous prions maintenant que tu utilises ces moments, les moments qui vont suivre, pour effectivement nous instruire, pour le faire, Seigneur, d'une manière efficace et puissante, pour qu'en repartant d'ici tout à l'heure, nous ayons appris à mieux te connaître et à mieux te servir. Nous te le demandons humblement, au nom de Jésus. Amen. Le christianisme authentique est irréprochable. Et premièrement, dans les versets 15 à 22, ce passage nous dit que le christianisme authentique, en effet, n'est pas en concurrence avec l'autorité civile. Alors le premier groupe de personnes qui s'approchent de Jésus pour l'éprouver, ce sont des gens qu'on appelle des Hérodiens. Ils sont apparemment entraînés par les pharisiens, mais c'est sur les Hérodiens qu'est l'attention ici. Les Hérodiens, c'est une partie de la population juive de l'époque qui est favorable à la collaboration avec le pouvoir romain, les Romains étant les occupants de la terre promise, le territoire d'Israël à cette époque-là. Ils sont favorables à la collaboration avec le pouvoir romain parce qu'ils pensent pouvoir en tirer un profit à la fois politique et financier. Et donc ils posent une question à Jésus concernant l'impôt que les Juifs devaient payer à César. Mais c'est une question piège parce qu'il n'y a pas de bonne réponse possible. Si Jésus dit « oui, il faut payer le tribut », eh bien, il va fâcher les juifs pieux qui, eux, sont contre l'occupation romaine et ils vont penser que Jésus, c'est un collabo avec les ennemis. Mais si Jésus dit non, il n'est pas permis de payer l'impôt, dans ce cas, il va fâcher les Hérodiens et, peut-être plus grave encore, il va fâcher les autorités romaines. Mais la réponse de Jésus au verset 21, que vous connaissez tous, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, la réponse de Jésus est très habile, en fait. Plutôt que de répondre oui ou non, Jésus refuse de se plier au jeu de ses adversaires et il amène la discussion sur un terrain différent qui est le terrain de l'autorité en fait. En substance, Jésus dit qu'il n'y a pas de problème à donner à César ce que César revendique à condition de donner à Dieu ce que Dieu revendique. Les deux ne sont pas nécessairement contradictoires. Pourquoi ? Parce que l'autorité de l'un et de l'autre ne s'exerce pas sur le même plan. Leurs revendications respectives, les revendications de César d'une part, celles de Dieu d'autre part, n'existent pas dans la même dimension, si j'ose dire. Ou pour le dire encore autrement, l'autorité de César et de Dieu n'ont pas exactement la même juridiction, comme si César et Dieu étaient des concurrents qu'on pouvait confronter sur un même ring. Le piège était destiné, en fait, à montrer que Jésus, soit n'était pas un juif fidèle, soit n'était pas un citoyen fidèle, vous voyez ? Mais la réponse de Jésus montre qu'en fait, c'est un faux dilemme. C'est un faux problème. Jésus dit qu'il faut donc se soumettre à l'autorité civile, non sans ajouter qu'il faut aussi et surtout se soumettre à Dieu. Et il y a un sous-entendu évident dans ce que dit Jésus. C'est que Dieu, par définition, est infiniment plus grand et plus puissant que César. Et donc, par conséquent, même notre obéissance à César, écoutez bien, doit être subordonnée à notre obéissance à Dieu. Il n'y a pas de concurrence entre les deux autorités, mais il y a quand même une subordination de l'une à l'autre. C'est comme si mes enfants étaient invités chez un ami, chez un voisin, et que je leur dise, avant de les laisser y aller, je leur dis, bon écoutez les loulous, il y a trois règles. Okay ? Règle numéro 1, vous me devez votre obéissance parce que vous êtes mes enfants. Règle numéro 2, vous devez votre obéissance aux parents de votre ami car vous êtes invités dans sa maison. Règle numéro 3, la règle numéro 2 est subordonnée à la règle numéro 1. Comprenez ? Ou encore, c'est comme si on disait à Renaud Lavillény, médaille d'argent de saut à la perche au JO de Rio cette année, c'est comme si on disait à Renaud Lavillény, écoute Renaud, dans l'exercice de ta discipline de saut à la perche, tu réponds à deux autorités et tu dois rendre à chacune ce qui lui appartient. D'une part, la Fédération Française d'Athlétisme, d'autre part, la loi de la gravité. D'accord ? Deux autorités qui ont deux juridictions différentes, qui ne sont pas en concurrence l'une avec l'autre, mais l'une étant quand même manifestement et naturellement, évidemment, subordonnée à l'autre. Et donc, de la même façon que l'autorité des parents de l'ami de mes enfants ne doit pas se sentir menacée par mon autorité, et de la même façon que la Fédération Française d'Athlétisme ne doit pas se sentir menacée par la loi de la gravité, de même, l'autorité civile ne doit pas se sentir menacée par l'autorité de Dieu, comme s'il fallait choisir entre les deux. Le christianisme authentique, qui implique l'allégeance des croyants à Dieu, n'est pas en concurrence avec l'autorité civile. Et c'est pourquoi les chrétiens n'ont absolument aucun problème avec le principe de la séparation de l'Église et de l'État. Et c'est ce principe de la séparation de l'Église et de l'État qui est le sens originel de la laïcité en France, qui fonde d'ailleurs cette fameuse loi de 1905, qui encadre l'exercice du culte dans notre pays. Mais attention, séparer l'Église et l'État, ça ne veut pas dire séparer Dieu et la vie publique. Supposer que les chrétiens puissent écarter Dieu de leur vie de citoyen, c'est justement rabaisser Dieu et ne pas rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Vous comprenez ? Et c'est ce que Jésus sous-entend ici. Ce qui appartient à Dieu, c'est tout en fait, tout ce qui existe, y compris évidemment notre propre vie. D'ailleurs, il y a vraisemblablement dans les paroles de Jésus ici une allusion à l'image de Dieu que porte tout être humain, d'après le livre de la Genèse, hein, tout être humain créé à l'image de Dieu, tout comme les pièces de monnaie portent l'image de César, vous voyez, il y a probablement une allusion à cela ici. Ce que ça veut dire, c'est que les chrétiens qui sont fidèles à Jésus doivent être respectueux de l'autorité civile, ils se soumettent aux lois du pays, ils acceptent de payer des impôts, bref, ils rendent à César ce qui est à César, mais sans jamais oublier le reste de la phrase de Jésus, c'est-à-dire qu'ils rendent aussi à Dieu ce qui est à Dieu, et ce faisant, par définition, puisque Dieu est Dieu, et puisque César n'est pas Dieu, par définition, l'obéissance des chrétiens à l'autorité civile est subordonnée à leur obéissance à Dieu. L'obéissance des chrétiens à Dieu implique qu'ils obéissent à l'autorité civile, puisque d'ailleurs c'est ce que Dieu leur demande. Je vous rappelle que Denis a prêché une belle prédication sur l'Épître aux Romains, chapitre 13, et versets 1 à 7, où il est question de ce que Dieu attend des chrétiens dans leur vie citoyenne, dans leur rapport avec les magistrats, avec les autorités. Mais l'obéissance des chrétiens à Dieu implique aussi que si jamais l'autorité civile leur demandait de désobéir à Dieu, c'est-à-dire si jamais César outrepassait son rôle et s'érigeait en rival de Dieu, comme s'il voulait être Dieu à la place de Dieu, eh bien les chrétiens devraient, même si c'était ce qui leur était demandé, ils devraient quand même rendre au vrai Dieu ce qui appartient au vrai Dieu, et par conséquent, les chrétiens, dans ce cas-là, désobéiraient à César par obéissance à Dieu. Est-ce que vous avez suivi ? Hein ? Règle numéro 3, la règle numéro 2 est subordonnée à la règle numéro 1. Donc le christianisme authentique est irréprochable déjà sur le plan de son rapport avec l'autorité civile authentique, c'est-à-dire celle qui ne franchit pas les limites de sa fonction, comme on le voit dans ce premier échange entre Jésus et les Hérodiens, pour qui cette question-là est une préoccupation importante. Mais deuxièmement, ce passage nous dit aussi que le christianisme authentique ne porte aucunement atteinte à la raison humaine. Alors voyez, dans l'histoire, il y a un deuxième groupe de personnes qui s'approchent de Jésus pour l'éprouver. Cette fois, ce sont des gens qu'on appelle des Sadducéens. Des Sadducéens. Comme les Hérodiens, les Sadducéens, c'est aussi une partie de la population juive de l'époque. Beaucoup d'entre eux sont des notables dans la société de l'époque qui ont une très haute opinion d'eux-mêmes, des snobs, si vous voulez, des snobs assez suffisants. Et leur spécificité aux Sadducéens, c'est qu'ils ont tendance à être, si j'ose l'anachronisme, à être un petit peu rationalistes. Les Sadducéens, vous voyez, c'est des juifs, mais ils ne croient pas aux miracles, ils ne croient pas aux anges et aux démons. Et surtout, ils ne croient pas à la résurrection des morts. Et c'est sur ce point qu'ils veulent piéger Jésus. Ils lui présentent donc un scénario complètement alambiqué et improbable concernant une femme 7 fois veuve. Et leur but aux Sadducéens est de forcer Jésus à choisir entre la doctrine de la résurrection des morts et la loi de Moïse. Vous voyez le piège qu'ils tendent à Jésus. Encore une fois, il n'y a pas de bonne réponse possible ici. Si Jésus répond qu'après la résurrection, la femme ne sera mariée qu'à l'un des frères, ce serait comme dire que les autres mariages n'étaient pas des vrais mariages, ce qui porterait atteinte à l'intégrité de la loi de Moïse, vous voyez. Mais l'alternative serait de dire qu'en fait, ben, il n'y a pas de problème puisqu'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais dans ce cas, c'est Jésus qui perdrait toute crédibilité, surtout auprès des autres juifs qui croient à la résurrection des morts. La troisième option qui consisterait à dire que la femme serait dans le paradis après la résurrection mariée avec 7 hommes différents est tout simplement absurde. Elle n'est pas du tout envisageable, ni pour les Sadducéens, ni pour Jésus, ni pour les pharisiens, ni pour personne d'autre à cette époque-là. Or, Jésus, ce qu'il fait, et encore une fois, au lieu de se plier au jeu de ses adversaires, il amène la discussion sur un autre terrain, cette fois sur le terrain des présupposés. Il dit à ses interlocuteurs qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Littéralement, en grec, « vous vous trompez, ne connaissant ni les Écritures, ni la puissance de Dieu ». Jésus est en train de pointer ici la mauvaise méthodologie ou la mauvaise approche des Sadducéens. Vous voyez, les Sadducéens, en fait, ils avaient déjà déterminé qu'il n'y avait pas de résurrection des morts parce qu'ils ne tiennent pas compte de la puissance de Dieu, ce qui les conduit ensuite à ne pas comprendre les Écritures correctement. Et pour Jésus, pourtant, la solution plutôt est simple. Et on l'a, hein, on l'a explicitement ici. Bien sûr qu'il y a une résurrection des morts, puisque ça n'intéresse pas Dieu d'être Dieu pour des morts. Il a dit lui-même qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas dit qu'il était le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et bien sûr que Dieu, puisqu'il est Dieu, est assez puissant. Ça fait partie de ses prérogatives, de ses capacités en tant que Dieu. Il est assez puissant pour ressusciter les morts, puisqu'il est omnipotent, c'est-à-dire qu'il peut tout faire. De plus, si on étudiait les Écritures comme il faut, d'après Jésus, on saurait que le mariage est une institution dont la portée est limitée à la vocation présente des hommes. Et donc, ce n'est pas une institution qui va perdurer dans l'éternité. Je sais que ça en déçoit quelques-uns et quelques-unes ici. Je n'ai pas le temps de m'éterniser sur la question, parce que là n'est pas le but principal de cette prédication. Si vous avez des questions par rapport à ça, on en discutera plus tard. Ce qu'il faut retenir surtout ici, c'est la question des présupposés, la question des présupposés qui est soulevée par Jésus en fait. Les Sadducéens se trompent sur la question de la résurrection des morts parce qu'ils n'ont pas abordé la question avec les bons présupposés. En gros, c'est ça. Et aujourd'hui encore, beaucoup de choses dans le christianisme paraissent invraisemblables aux gens parce qu'ils n'abordent pas ces questions avec les bons présupposés. Vous voyez, c'est comme si vous viviez dans l'Antiquité, il y a 3000 ans, disons, 4000 ans, et qu'un ami vous dise « Voilà, Voilà, Alex, je vais monter dans ce navire que tu vois ici et je vais partir vers l'horizon et je ne vais pas m'arrêter jusqu'à ce que je réapparaisse derrière toi parce que j'aurais fait le tour du monde. Alors là, vous seriez tenté, enfin, si je vivais dans l'Antiquité, je serais tenté de lui répondre, mais ça ne va pas la tête. Si tu pars vers l'horizon sans t'arrêter, tu vas atteindre le bord du monde et tu vas tomber et disparaître dans le vide. Et tu ne reviendras jamais et je ne te reverrai jamais. Et si votre ami partait en effet vers l'est, malgré vos protestations, et revenait quelques mois plus tard par l'ouest, vous seriez persuadé qu'il avait triché. Il était parti juste assez loin pour que vous ne le voyiez plus, hop, voilà, et puis il revient derrière vous. Pourquoi vous seriez persuadé qu'il avait triché ? Ben parce que votre représentation de la réalité est conditionnée par vos présupposés. Et, comme beaucoup de gens dans l'Antiquité, vous présupposez que la Terre est plate. Et qu'elle a un bord, et qu'au-delà du bord de la terre, il y a le vide. Et si aujourd'hui vous dites à vos collègues au travail que vous croyez que Jésus est ressuscité des morts, et que d'ailleurs tous les humains vont un jour ressusciter, et que nous serons un jour jugés par Dieu, non seulement nous, mais aussi les anges, les démons et le diable, qui au fait existent bel et bien, vos collègues vont vous regarder avec des yeux tout ronds. Comme vous, dans l'Antiquité, auriez regardé votre ami qui compte faire le tour du monde avec son bateau. Pourtant, s'il y a un Dieu, par définition, il est capable de ressusciter les morts. Il est capable d'avoir créé un monde physique et spirituel. Il est capable d'avoir créé des anges dont certains sont déchus. Et il est capable d'inspirer des prophètes pour nous en parler de manière infaillible dans les saintes écritures. Il est capable de faire tout ça, si Dieu existe. Bien sûr qu'il en est capable. C'est une question de présupposer, vous voyez ? De même, si vous enseignez à vos enfants que l'univers et tout ce qui remplit l'univers a été créé par Dieu, par la puissance de sa parole, si vous enseignez à vos enfants que ce cosmos est suspendu à la volonté souveraine de Dieu qui régit cet univers, si vous enseignez ce genre de choses à vos enfants, vous risquez d'être accusé d'obscurantisme. Et si vous essayez de transmettre à vos enfants les valeurs morales de la Bible, notamment par rapport à la famille, par rapport au mariage, à la sexualité, par rapport au respect dû aux parents, surtout si vous parlez à vos enfants de la nécessité de placer leur confiance en Jésus pour être sauvés, ouh là 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 là, il y a déjà des voix qui s'élèvent pour dire que vous êtes coupable de maltraitance sur enfants. Vous pouvez rire, mais riez jaune, parce que c'est vrai ce que je vous dis. Alors qu'en réalité, le christianisme authentique n'a rien d'irrationnel. Le christianisme authentique est parfaitement cohérent, il est parfaitement vraisemblable quand on le considère avec les bons présupposés. Et ce que cet échange entre Jésus et les Sadducéens nous invite à faire, donc, c'est au moins, déjà avant de réfléchir à si on sera marié ou pas dans le paradis, c'est déjà au moins examiner nos présupposés. Non seulement cela, mais aussi examiner les présupposés de tous ces prétendus philosophes, ces prétendus intellectuels et même ces prétendus spécialistes de la Bible de nos jours qui veulent nous faire croire que le christianisme confessionnel de nos aînés dans la foi, nos aînés qui croyaient à la naissance virginale de Jésus, qui croyaient à sa résurrection corporelle d'entre les morts, qui croyaient à l'existence des anges et des démons, nos aînés dans la foi qui croyaient à la réalité des miracles, qui croyaient aussi à l'exclusivité du salut en Jésus-Christ, nos aînés qui croyaient encore au mariage homme-femme, qui croyaient à la dignité de la vie humaine, de la conception, à la mort naturelle, eh bien, il faut que nous examinions les présupposés de ces prétendus spécialistes qui voudraient nous dire que ce christianisme-là, le christianisme de nos aînés dans la foi, est dépassé et même contraire au progrès de la science et du savoir. Vous l'avez entendu, ça ? Ne mentez pas, vous l'avez entendu à la télé, vous l'avez entendu à la radio, vous l'avez lu dans les journaux, n'est-ce pas ? Examinons les présupposés de ces gens-là qui voudraient nous faire croire ce message. La réalité, comme on vient de le voir, c'est que le christianisme authentique, en fait, ne porte aucunement atteinte à la raison humaine. Mais troisièmement, ce passage nous dit aussi que le christianisme authentique est bénéfique à l'homme et à la société. C'est dingue comme idée, ça. Je vais essayer d'aller un peu plus vite sur cette troisième partie avant de conclure avec la vraie question qui est la plus importante. Mais ici, donc, versets 34 à 40, on a un troisième échange qui a lieu cette fois avec un pharisien. On a eu les Hérodiens, on a eu les Sadducéens, maintenant on a un pharisien qui est envoyé par d'autres. Ils ont peut-être tiré la courte paille. Bon, écoute, toi, vas-y, va poser la question à Jésus. Donc il y va, bon, c'est un spécialiste, hein, le texte nous dit que c'est un docteur de la loi, donc c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît. Alors les pharisiens, tout comme les hérodiens et les sadducéens, c'est aussi une partie de la population juive de l'époque, mais eux, leur particularité, c'est qu'ils sont très attachés à la pratique de la religion. Ils sont très attachés à la pratique de la religion. Ils sont pour une obéissance archi-scrupuleuse à toutes les règles et les cérémonies du judaïsme. En fait, ils y trouvent un tel plaisir et une telle satisfaction qu'ils ont même ajouté plein de règles qui ne sont pas dans la Torah, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, qui est la Bible des Juifs. Des règles qu'ils ont en fait tirées de la tradition au fil des siècles. Toutes ces règles, disent-ils, c'est la loi de Dieu. Et il faut respecter la loi de Dieu et la tenir en très haute estime. Et donc la question que pose ce pharisien à Jésus, elle est aussi destinée à tendre un piège à Jésus, parce qu'en demandant à Jésus quel est le grand commandement de la loi, et peut-être que dans sa question il sous-entend quel est le grand commandement parmi les 10 commandements, mais ce n'est pas dit explicitement, mais c'est possible qu'il y ait une allusion ici aux 10 commandements, mais en tout cas, en disant à Jésus quel est le grand commandement de la loi, il veut forcer Jésus à discriminer entre les lois de Dieu, et donc il veut forcer Jésus à sous-entendre que certaines lois ne sont pas si importantes, bien qu'elles soient pourtant la loi de Dieu. Vous voyez le piège, c'est subtil. Les pharisiens veulent pouvoir reprocher à Jésus, ce qu'ils cherchent, c'est de pouvoir reprocher à Jésus d'être ce qu'on appelle un antinomien, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas pleinement attaché au respect de la loi morale de Dieu. Quelqu'un donc qui mettrait en péril l'intégrité morale de la société juive dont les pharisiens pensent être les garants. Mais, encore une fois, la réponse de Jésus, eh ben, elle lui cloue le bec à ce pharisien. Parce qu'il parvient, Jésus, à citer le commandement, et même les deux commandements, qui résument toute la loi. D'une part, on a l'amour complet et inconditionnel pour Dieu, ce qui est le premier et le grand commandement d'après Jésus. D'autre part, l'amour désintéressé, altruiste, pour le prochain. Ce que le texte veut nous montrer ici, c'est qu'on ne peut pas reprocher au christianisme authentique d'être moralement néfaste, bien au contraire. Bien au contraire, le christianisme authentique soutient la loi morale de Dieu. Et Jésus est même capable de la résumer en deux commandements. Il dit de ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous connaissez les paroles du chant Imagine, hein, de John Lennon, un grand tube interplanétaire, si j'ose dire. Hein. En français, imagine qu'il n'y a pas de paradis. Imagine qu'il n'y a pas d'enfer, imagine tous les gens qui vivraient pour aujourd'hui. Imagine s'il n'y avait pas de religion, imagine tous les gens qui vivraient en paix. Mais moi, je vous invite plutôt à imaginer ce que ce serait si tous les hommes aimaient le Seigneur leur Dieu de tout leur cœur, de toute leur âme et de toute leur pensée. Et je vous invite à imaginer ce que ce serait s'ils aimaient leur prochain comme eux-mêmes. Contrairement à ce que pensait John Lennon, c'est plutôt dans ces conditions que les gens vivraient en paix et qu'il y aurait une véritable fraternité entre les hommes comme John Lennon le souhaite dans sa chanson. Le christianisme authentique est irréprochable sur la question du bien moral parce que le christianisme détourne les hommes de leurs propres intérêts, de leurs propres passions, de leurs propres désirs auxquels nous serions asservis si, comme le souhaitait John Lennon, nous étions livrés à nous-mêmes en l'absence de Dieu. Hein ? Ce qui conduirait au chaos plutôt qu'à la paix et au vivre ensemble. Hein. Donc le christianisme nous détourne de nos propres intérêts, de nos propres passions, de nos propres désirs et nous tourne vers Dieu et vers les autres dans un mouvement d'amour dont l'objet est extérieur à nous-mêmes. Et j'ai envie de vous dire, ça c'est vraiment une des marques du christianisme authentique que Jésus nous livre ici très explicitement. Le christianisme authentique est bénéfique à l'homme et à la société parce qu'il offre à l'homme le remède à sa condition déchue. Et c'est justement ce qui nous conduit maintenant tout droit à la conclusion de ce passage et de cette prédication. Il y a donc eu ces trois échanges, si vous avez suivi. C'est le moment de se réveiller, j'arrive près de la fin. Il y a donc eu ces trois échanges avec trois groupes de personnes qui, chacun cherchait à piéger Jésus pour pouvoir l'accuser et décrédibiliser sa personne, son message et son œuvre. Et à travers ces trois incidents, hein, les Hérodiens, les Sadducéens, les Pharisiens, L'auteur a voulu nous montrer que le christianisme authentique en fait était irréprochable autant sur le plan de son rapport avec l'autorité civile que par rapport à la raison humaine ou par rapport à la question du bien moral. Mais maintenant, en conclusion, quelque sorte, de cet épisode, c'est Jésus qui prend la parole cette fois et qui pose une question à ses détracteurs. Ici, ce sont en l'occurrence les pharisiens qui, d'après le verset 15, sont les principaux instigateurs de l'opposition à Jésus. Et cette question de Jésus a pour but de révéler le vrai problème qui existe entre Jésus et ses ennemis. Par sa question, Jésus montre aux pharisiens que le Messie est censé être à la fois le fils de David, c'est-à-dire le descendant du roi David, et en même temps le seigneur du roi David. Et en soulevant cette question et en citant un texte biblique à l'appui, Jésus pointe vers la suprématie exceptionnelle du Messie qui devait venir si grand, si puissant, si prééminent dans son autorité que même le roi David, le grand roi David, l'appelle son Seigneur. Adonai, dans le psaume en hébreu, Adonai étant normalement un titre réservé à Dieu, enfin habituellement réservé à Dieu. Et le cœur du problème, il est là. C'est un problème d'insoumission. Un problème d'insoumission. Les ennemis de Jésus, en fait, s'opposent à Jésus, pas parce qu'ils n'aiment pas la couleur de ses cheveux, hein, ou sa personnalité. Hein. Non, ils s'opposent à Jésus parce qu'ils n'acceptent pas l'idée d'un Messie qui soit plus qu'un grand homme. Et Jésus fait assez clairement allusion ici à la nature divine du Messie. Or, nous avons beaucoup parlé du christianisme authentique cet après-midi, mais qu'est-ce qui fait l'authenticité du christianisme, sinon son rapport au Christ? Par conséquent, et a fortiori, l'authenticité de notre foi, si nous nous disons chrétiens, dépend premièrement de notre relation à Jésus. Et voici quelle est l'unicité du christianisme et ce qui le démarque radicalement de toute autre religion. La Bible enseigne que Jésus, c'est Dieu fait homme, Dieu incarné, qui s'est approché des hommes pour les délivrer de leurs péchés et de la mort. Nous étions perdus, séparés de Dieu parce que c'est ce que nous voulions, nous étions par conséquent destinés à subir éternellement le juste châtiment de nos fautes, mais Dieu s'est approché en Jésus le Messie. Jésus a vécu la vie d'un homme parfait, sans faute, et il s'est volontairement substitué à nous sur la croix, où il a pris sur lui notre péché pour nous en délivrer et pour que nous puissions recevoir en échange, en quelque sorte, sa justice parfaite. Jésus le Messie a réglé la dette de nos péchés en mourant sur la croix, et il est ressuscité le troisième jour en vainqueur, de façon à ce que tous ceux qui lui font confiance, non seulement reçoivent le pardon de leurs péchés, mais entrent aussi pleinement au bénéfice de la victoire de Jésus sur le mal et sur la mort. Tous les croyants, et j'espère que c'est votre cas aujourd'hui, j'espère que vous avez placé votre confiance en Jésus, j'espère que l'objet de votre foi, c'est Jésus. Si c'est le cas, sachez que par votre foi en Jésus, vous recevez l'assurance de la vie éternelle. Mais la vraie foi chrétienne, c'est pas juste ça. La vraie foi chrétienne, ça consiste aussi, humblement, dans une confiance totale et dans un renoncement total à soi-même, ce qui dérangeait en fait fondamentalement les pharisiens. Ça consiste à plier le genou devant ce Seigneur suprême et bienveillant, le roi des rois, Jésus-Christ, le Messie qui s'est donné lui-même pour nous et qui ensuite, après sa résurrection, après son ascension, s'est assis à la droite du Père pour régner et déployer son règne jusqu'à ce que tous ses ennemis deviennent son marchepied. Alors voyons, on parlait au début de la place de la religion dans la société, on parlait de la façon dont les religions en général étaient décriées, de plus en plus accusées de tous les maux. Il y a beaucoup de reproches faits notamment à l'encontre du christianisme, et il faut le dire, il y a aussi beaucoup de reproches qui sont faits, souvent avec raison, à l'encontre des chrétiens. Parce que si le christianisme authentique est irréprochable, ce n'est pas le cas des chrétiens. Vous comprenez la nuance, la différence. Les chrétiens ne sont pas irréprochables. Mais le christianisme authentique est irréprochable dans la mesure où le christianisme authentique est représenté par Jésus-Christ, par son message et son œuvre. Vous voyez, le christianisme n'est pas néfaste, le christianisme n'est pas néfaste ni pour nous, ni pour la société. Si le christianisme nous pose problème, il y a de fortes chances que ce soit à cause du vrai problème, qui est celui de notre cœur insoumis. Donc si vous êtes chrétien aujourd'hui, mais que vous vivez votre foi dans un coin, discrètement, en toute confidentialité, de peur de déranger, je voudrais vous encourager. Rappelez-vous que dans cette espérance que vous avez reçue, que vous portez en vous comme dans un vase de terre, nous dit l'apôtre Paul, eh bien vous savez, il n'y a rien dans cette espérance qui menace l'autorité civile, il n'y a rien qui s'oppose à la raison humaine, il y a au contraire tout pour faire du bien à l'homme et à la société. Vivez donc votre foi ouvertement et courageusement dans la soumission à Jésus-Christ. Et si vous n'êtes pas chrétien, la question qui se pose à vous, c'est la suivante. Seriez-vous en proie à des présupposés qui reposent eux-mêmes sur du sable? Est-ce que vous vous êtes laissé convaincre par une certaine pensée unique à l'école, au travail ou par les médias, une certaine pensée unique qui vous empêche de considérer objectivement, sincèrement, le message du christianisme? Et si vous découvrez aujourd'hui pour la première fois le message central de ce christianisme, de ce vrai christianisme qui concerne la personne et l'œuvre de Jésus-Christ, alors si vous découvrez cela pour la première fois aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour céder votre vie à ce Rédempteur admirable? Amen. On va prier. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole encore une fois. Puisse-t-elle porter du fruit dans notre vie? Puissions-nous, avec le secours de l'Esprit-Saint, puissions-nous nous souvenir de ce que tu nous as appris aujourd'hui et que cela se traduise dans la façon dont nous allons vivre notre vie dans la semaine qui est devant nous. Amen.